peut-être juste avant de passer au dossier suivant, puisqu'on a parlé des rendez-vous avec des équipes de direction générale, je profite de l'occasion pour vous présenter la nouvelle directrice générale des services de Bussy-Saint-Georges, Madame Touré, Sabrina, qui est juste derrière moi, et qui est arrivée à Bussy le 1er septembre.
Bienvenue.
Donc voilà, je pense qu'on peut l'applaudir. Très bien. Alors, renouvellement des membres de la commission consultative des services publics locaux. Alors, suite à la démission d'Eddie Carton, nous avions nommé le 15 juin dernier M. Aguerre en lieu et place de M. Eddie Carton, mais M. Aguerre faisait déjà partie de la commission.
J'ai tenté d'avoir un double.
Donc ça ne marche pas. Donc il va falloir élire deux représentants, donc l'un membre titulaire représentant du conseil municipal et un représentant des usagers. Alors, sur le représentant titulaire, y a-t-il des candidatures? Madame Joie. D'autres candidatures? Monsieur Canal. Nous allons donc passer au vote. Pour Madame Nathalie Joie. Ça y est, c'est compté. Pour Monsieur Canal. Y a-t-il des abstentions?
Non, on a voté pour,
j'ai pas vu.
Pour la nouvelle majorité.
Très bien, merci.
On suit.
On va en discuter. on va en discuter. Alors, très bien. Donc, Nathalie Joie est nommée membre titulaire du CCSPL. Il y a effectivement un suppléant. Il y a donc un suppléant à nommer également, puisque Madame Joie, qui était suppléante, passe titulaire. Et donc, y a-t-il des candidatures pour le poste de suppléant?
J'en connais ailleurs, mais là, non.
Alors, je sais que c'est moins attractif, mais il me faut quand même un candidat.
Bah, généralement, ils se battent même pour ça, mais bon.
J'aurais bien, mais je peux pas.
Il y en a qui sont déjà titulaires. Y a-t-il des candidatures de suppléants? Bien. Je crois que je vais en nommer un d'office dans la majorité. Qui n'y est pas. Alors, tout le monde baisse les yeux, c'est bizarre. Allez. Baptiste Fabrice se propose. Donc, je vais vous proposer de passer au vote pour Baptiste Fabrice, suppléant du collège du conseil municipal. Qui est pour?
Oui, vous êtes pour. Allez,
Baptiste,
Chantal, fais un effort.
Tu es le premier vote à l'unanimité de ce conseil municipal. Et donc, nous avons un représentant du collège des usagers suite à la démission de M. Luc de Françu qui a déménagé de Bussy-Saint-Georges. Et je vous propose la candidature de Mariette Bébi de Famille de France. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Merci beaucoup. Donc, la commission consultative des services publics locaux est au complet. Alors, autre sujet. Donc, le rapport des représentants de la ville de Bussy-Saint-Georges au conseil d'administration de la société d'économie mixte locale, énergie, développement local pour l'exercice 2016. Donc, vous avez dans vos pochettes le bilan financier de 2016, qui marque bien évidemment une activité totalement vide sur cette société. Et les seuls frais inhérents à cette SEM solaire sont les frais d'avocat, les honoraires du commissaire aux comptes et les formalités de greffe. Donc selon les statuts, il n'y a plus aucune activité dans cette entreprise et qui est maintenue encore en existence aujourd'hui en raison de nombreux contentieux qui lient cette structure à son ancien président. Donc voilà, donc pour l'instant nous la maintenons un peu sous perf. Il n'est pas question bien sûr de réinjecter quoi que ce soit dans le capital, mais pour l'instant il n'y a pas de nécessité à faire cela. Nous avons eu le commissaire aux comptes qui a validé le document qui vous est présenté, donc on est bien effectivement sur une structure aujourd'hui qui n'a plus aucune activité. Y a-t-il des questions? Monsieur Canal.
Il y a un texte que vous avez cité d'ailleurs dans la note de présentation, la note explicative, qui est l'article 1524-5 du Code général des collectivités territoriales, qui lui-même a codifié la loi du 7 juillet 1983, article 8, selon lesquels il est fait obligation de présenter annuellement un rapport écrit par les membres du Conseil délégués auprès de la SEM solaire, la SEM EDL. Alors, quand je compare ce qui a été fait l'année dernière sur le sujet, l'année dernière, il y a eu, en tant qu'information, si vous me permettez, vous ferez des commentaires après.
Oui, non, mais
parce que vous ne savez pas encore ce que je vais dire.
Je disais simplement, c'était mieux avant.
Si vous l'avouez vous-même, alors à ce moment-là, je retire ce que je vais dire. Si vous devinez dans mes pensées.
C'est ironique, c'est
alors,
du premier
degré. Alors, laissez-moi poursuivre.
Allez-y, monsieur Canard.
Si vous voulez bien. Je sais que on m'a déjà menacé de m'exclure du conseil municipal parce que j'avais pris un temps de parole trop long où je disais des choses désagréables.
La menace d'expulsion, elle est toujours
valide. Mais je suis là aussi pour exprimer de certains points de vue.
Faites.
Lorsque je regarde donc ce qui a été fait l'année dernière, et là je ne parle pas de savoir si c'était mieux ou moins bien. Je dis simplement que dans l'information communiquée aux membres du conseil municipal, dans son ensemble, majorité, opposition, quelles que soient les listes, vous vous devez, normalement, en tant que représentant, fournir un rapport écrit. Or, qu'avons-nous sur table aujourd'hui, qu'avons-nous reçu avant de participer à cette séance ? Nous avons reçu une note explicative qui n'explique rien, d'une demi-page. Et nous avons reçu un rapport qui est le rapport du commissaire aux comptes de la dite société, Samson. Si je compare l'année dernière, nous avions fait une note technique qui faisait une page et demie, qui détaillait un certain nombre de choses intervenues sur cette société et qui faisait allusion par écrit aux procédures contentieuses que vous venez d'évoquer par oral sans vous y étendre plus que ça. Nous avions en tant que rapport, et là c'était un rapport produit par nous, puisqu'il s'agissait nommément du rapport du président de la SEM solaire à l'Assemblée générale ayant statué sur les comptes 2015. Ce rapport faisait 3 pages. Il détaillait chaque poste du bilan du compte de résultat en expliquant ligne à ligne la teneur de ces comptes et les enjeux ou la situation actuelle dans son environnement de la SEM EDL. Aujourd'hui, vous ne produisez, je regrette, aucun document nommé par cet article, par cette loi, article L1524-5 du CGT. Je dis donc qu'à défaut ce soir de présentation d'un document, que nous n'avons toujours pas, vous ne satisfaites pas aux obligations légales en la matière. Et pour moi, il y a un défaut d'information objective sur la situation de cette société, dont nous ne connaissons rien des développements récents. Les frais sont ce qu'ils sont, il y a quand même eu des frais. Les comptes ont été tenus par moi-même, juste avant que vous ne me débarquiez de cette société, sans attendre la fin de mon mandat.
Ce qui me paraît normal.
Oui, enfin ça on peut discuter. C'est la première fois que je suis débarqué d'une société avant la tenue de l'Assemblée générale qui statue sur les mandats d'administrateur. Mais passons, c'est pas mon orgueil personnel qui est en jeu, loin de là. Mais nous n'avons donc aucune matière tangible à nous mettre sur la main. Nous ne savons pas où en sont ces recours, ces procédures judiciaires. Je vous rappelle qu'il y a 3 dossiers dans lesquels la SEM est indirectement ou directement concernée. Aujourd'hui, c'est le blackout. Nous n'avons aucune information. Donc, monsieur le maire, je regrette l'absence d'ailleurs de monsieur le président en exercice de la SEM EDL, qui a certainement beaucoup d'informations à ce sujet, qui aurait pu peut-être valablement répondre, mais il n'est pas là.
Donc je vous laisse le soin. Je vais vous répondre, bien évidemment, en tant que principal actionnaire de la société. Alors, sur la première question, effectivement, sur le rapport écrit. Le rapport écrit, vous l'avez aujourd'hui dans la note de présentation, et je n'arrive pas à comprendre comment on peut faire 3 pages sur du vide. Parce qu'effectivement, de toute manière, il n'y a aucune activité de cette société depuis quelques années, et que la seule activité qui existe aujourd'hui sont des mouvements de paiement des frais d'avocat, des honoraires du CAC et des formalités de greffe qui ne changent pas d'une année sur l'autre. Donc, les procédures sont habituelles, nous avons les assemblées générales ordinaires, nous avons toutes les instances de cette société qui se réunissent, et ça vous pourrez le vérifier. Mais par contre, je dirais de répéter année après année, je dirais, l'inexistence de l'activité de cette société, pour moi, ne mérite pas plus que le demi-paragraphe que vous avez dans la note de présentation et le document que vous avez sur le bilan de cette société. Et donc, d'année en année, vous aurez exactement la même chose. Donc, je ne vais pas m'amuser à faire un écrit de 4 pages sur rien. Donc voilà ma réponse effectivement là-dessus. Quant aux contentieux qui sont depuis mars 2014, ce sont toujours les mêmes avec pour l'instant un suivi judiciaire sur 2 plaintes au pénal pour faux usage de faux et abus de biens sociaux et un contentieux civil auprès du tribunal de grande instance de Meaux sur des excès de rémunération et une demande de remboursement de 30 000 euros. Pour l'instant c'est toujours en cours. Donc ce sont des contentieux qui prospère normalement. La preuve, nous avons encore des frais d'avocat, ça devons bien effectivement que ces affaires sont suivies. Et comme on essaye de dire à un moment ou à un autre, tiens, Dubos, qu'il a été élu avec les voix de Rondeau, donc il va mettre fin au contentieux de ce genre de choses. Ça, je l'entends, et ça a même été écrit à plusieurs reprises sur différents blogs, donc je n'aurais pas la cruauté de le rappeler. Et donc, ces 3 contentieux prospèrent toujours. Et sont inscrits, je dirais, au niveau de la SEM solaire dans ses comptes. Donc il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas d'arrêt, il n'y a pas de transaction, je dirais, là-dessus. Même si sur le civil, nous avons peu de chances d'aboutir, le contentieux est toujours vivant. Si j'avais voulu arrêter les contentieux, j'aurais cessé de dépenser de l'argent pour un commissaire aux comptes et j'aurais dissous la société, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Voilà ma réponse. Monsieur Canan.
Concernant le rapport qui est fourni, vous fournissez une fois de plus le rapport du commissaire aux comptes. Ce rapport du commissaire aux comptes est une obligation légale.
Absolument.
Lie la société SEM EDL elle-même oui. Par rapport à la loi.
Absolument.
Il ne s'agit en aucun cas du rapport écrit émanant
des
représentants de la commune.
J'ai pas dit ça.
Peut-être.
La note du conseil
dit,
municipal.
Vous avez une information suffisante à travers le rapport qui vous a été fourni.
Non, non. Le rapport.
Alors, le rapport que vous nous avez fourni
vous avez...
n'est pas votre rapport. Il est le rapport.
J'ai pas dit ça. J'ai dit que la note, effectivement, de présentation était pour moi le rapport exhaustif de ce qui se passe ou qui ne se passe pas dans la SEM solaire aujourd'hui. Donc, il n'y a pas besoin, effectivement, de faire 3 pages sur du vide. Il n'y a plus d'activité, si ce n'est les dépenses légales entre guillemets de la SEM solaire.
Je n'ai pas dit. Dans mon exposé, que vous étiez obligé de faire un rapport de 3 pages. J'ai dit que l'année dernière, il y avait eu un rapport personnel
des
représentants
de la commune auprès d'activité.
Du conseil d'administration de la SEM. Donc, la production d'un écrit au sens de la loi telle que c'est stipulé, alors qu'aujourd'hui, nous ne l'avons pas.
Ok, dont acte. Dont acte.
Vous auriez pu écrire, parce qu'il n'y a pas grand-chose, peut-être.
Ah non, il n'y a rien du tout.
Non, il n'y a pas rien.
Il n'y a rien du tout.
Il y a des frais, écoutez.
Non, mais les frais
sont... C'est moi qui ai arrêté les comptes, il y a des frais.
C'est vous qui avez arrêté les comptes, c'est moi qui les avais engagés.
Vous auriez pu l'écrire, parce que c'est une obligation, monsieur le maire, c'est une obligation.
Si vous voulez qu'on joue à celui qui a le plus grand rapport, vous avez gagné. Mais je dirais là-dessus, on est simplement...
Reconnaissez-le simplement.
Mais c'est ce que je viens de vous dire, je vous reconnais le plus gros rapport. Donc voilà,
c'est quand même regrettable que...
Donc comme ça, effectivement, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais de faire un rapport sur du vide, la note se suffit à elle-même, le rapport, le bilan du CAC se suffit à lui-même, point. Donc là-dessus, on pourra en parler pendant 3 heures. Vous avez fait un excellent travail dans la SEM, tout le monde le reconnaît autour de cette table-là. Voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. Je ne vais pas faire de la qualité ou de la quantité.
Quant au procès en cours, je sais pertinemment qu'il y a eu des évolutions. Il y a eu une comparution au mois de mars.
Mais vous l'avez lu dans la presse, effectivement.
Ben, oui, mais vous devez vous en faire l'écho à travers un rapport écrit, une fois
mais
de plus.
Aujourd'hui, il y a un appel, donc on va
donc,
pas
quand
se
vous dites circuler, il n'y a rien à voir, je suis désolé. Il y a des choses qui se sont passées, même minimales. Vous auriez dû... les codifier dans un rapport écrit, je le maintiens, et j'estime que l'information qui a été communiquée est défaillante, très insuffisante, par rapport aux obligations qui
sont... C'est votre avis, ce n'est pas le mien. À faire un rapport sur du vide, vous avez la note de présentation, vous avez le rapport du cas qui détermine qu'il ne se passe rien, si ce n'est effectivement les sommes habituelles de frais de contentieux, ce qui montre quand même effectivement que ça évolue, de honoraires de CAC qui nous coûtent cher pour une activité nulle et des inscriptions au greffe du tribunal de commerce qui nous coûtent cher pour rien du tout. Voilà, point. Donc tous les ans, jusqu'à l'extinction des contentieux, je vous dirai exactement la même chose. Donc vous aurez toujours le plus gros rapport, effectivement, de 2014 et 2015, ça c'est clair. Très bien. D'autres questions ?
Si ça continue, vous aurez plein de petits rapports plus loin.
Alors, nous allons passer au vote. On vous demande d'approuver le rapport des représentants de la ville de Bussy-Saint-Georges au sein du conseil d'administration de la SMEL-EDL pour l'exercice 2016 comportant les comptes annuels approuvés par les actionnaires, de donner quitus aux représentants de la commune à la SEM-EDL de leur gestion 2016 et de donner tout pouvoir au maire pour exécuter la présente délibération. Contre. Abstention. Merci beaucoup. Alors, dissolution du syndicat intercommunal à vocation unique, gestion de l'immeuble de la perception de Ferrières en Buis, en Brie. Alors, c'est un vieux dossier qui arrive enfin, à maturité quasiment, puisque le 28 août 2017, il y a eu dissolution du comité syndical, et donc il a été attesté d'un certain nombre de sommes restantes, notamment 515 908,79 €, à répartir sur les différentes collectivités membres de ce groupement. Bussy-Saint-Georges, Bussy-Saint-Martin, Collégien, Conches, Croissy-Beaubourg, Émeraville, Guermantes, Ferrières-en-Brie, Chessigny et Logne, qui se verront donc chacune attribuer la somme de 51 590,879 € au titre de la dissolution de ce syndicat. Y a-t-il des questions ? Contre ? Abstention ? Merci beaucoup. Alors, adoption de la charte éco-quartier en vue de la labellisation de la ZAC du Sycomore. Monsieur Citizac.
Oui, alors, donc, c'est la formalisation de notre volonté de créer un éco-quartier et de le faire reconnaître au niveau national. Et pour y arriver, nous devons respecter un ensemble de 20 engagements qui se traduisent par l'utilisation du matériau bois dans les constructions, des constructions certifiées RT 2012, un chauffage urbain à base de biomasse, également favoriser l'utilisation du vélo dans les déplacements et limiter l'utilisation de la voiture. Un autre point, c'est la limitation de l'empreinte carbone, l'intégration de toutes les exigences de développement durable, pour atteindre un très haut niveau de performance environnementale. Si quelqu'un a des questions concernant cette labellisation, je suis prêt à...
Vous avez la charte dans vos documents, donc elle est précise, elle est forcément contraignante. Elle apporte effectivement, par contre, un rayonnement et une diffusion nationale qui n'est pas inintéressante pour Bussy-Saint-Georges. Et je rappelle que cette dénomination d'éco-quartier a été réalisée dès la naissance de la ZAC. C'est quelque chose, effectivement, dont on parle dès la création de la ZAC. On a vu avec les équipes d'EPAMARN, on a rebalayé l'ensemble des données et notamment des engagements, parce que c'est pas tout d'avoir un label, il faut pouvoir le conserver. Et donc, il sera vérifié à différentes étapes de la réalisation du quartier du Sycomore. Et il nous a semblé utile de marquer la philosophie de ce quartier du Sycomore et d'apporter aussi à l'ensemble des concurrents qui vont déposer des dossiers au fur et à mesure de l'urbanisation de cette ZAC du Sycomore un cahier des charges précises pour réaliser effectivement à la fois du qualitatif et de traiter avec innovation un certain nombre de choses. Donc par exemple, le traitement des voiries permettant de récupérer l'énergie, le traitement des eaux à la parcelle, alors qu'aujourd'hui effectivement on a plutôt des connexions sur les EP. Donc on va avoir comme ça systématiquement l'ensemble des dispositifs. Nous avons aussi rajouté des niveaux de haute technologie, par exemple les BIM, donc qui a été réalisé notamment le premier BIM en permis de construire pour Emmaüs Habitat. Voilà, donc c'est toute une batterie d'engagement qu'il nous faudra poursuivre pour pouvoir réaliser dans de bonnes conditions cette ZAC du Sycomore. Y a-t-il des questions, Madame Brunel?
Non, pas une question, une remarque. C'est que, en son temps, moi j'avais dit fortement à l'État et à Epamarne que c'est bien d'avoir un écoquartier, mais qu'en échange, il y a des contraintes et il n'y a aucune aide financière supplémentaire. Car ces contraintes coûtent cher. Voilà. Donc, on avait retardé. Par ailleurs, je voudrais quand même dire à M. Aguerre que, je pense qu'il le sait, que la construction du second échangeur est certes souhaitable, mais qu'il a été, enfin, il était prévu, en tout cas, il y a un an, je pense que c'est encore le cas, une forte participation de la commune, que ce n'est pas un échangeur, et qu'il va falloir aussi trouver les marges financières pour que les Buxan-Georgiens payent une partie de l'échangeur, et si j'ai bonne mémoire, la contribution de la commune, mais peut-être que ma mémoire me fait défaut, était de l'ordre de 7 à 8 millions. Mais peut-être que ma mémoire me fait défaut et que j'avais en souvenir 7 à 8 millions. Donc tout le monde est pour la construction du second échangeur, mais il y a une contrainte financière. Et sur l'écoquartier, moi je ne trouve pas normal que l'État, c'est très bien d'avoir un écoquartier, il y a des contraintes supplémentaires qui coûtent cher et il n'y a pas un euro de plus pour la commune.
Alors c'est la raison pour laquelle, M. Aguerre.
Oui, juste pour l'échangeur, effectivement, l'échangeur, quand on voit à 17h comment c'est compliqué de sortir, il faut le faire, on ne peut pas se permettre.
Non, mais,
enfin, moi, ça a été vraiment...
Je vais revenir sur ce point-là, mais notamment sur la construction... Sur la construction labellisée écoquartier, aujourd'hui, ce que l'on demande aux candidats, c'est d'avoir des groupements permettant de réaliser des économies directes dans le cadre de la présentation. Donc, les économies, il n'y a plus de subventions, je dirais, dans ce domaine-là, ou très peu. Mais par contre, je dirais, l'obligation de travailler sur des nouveaux matériaux, l'obligation de travailler notamment sur des bâtiments intelligents, l'obligation de travailler sur de l'énergie positive, va faire que, de toute manière, au service des Buxan-Georgiens, c'est tout bénéfice. Le fait, effectivement, d'avoir des sites propres, notamment pour les transports en commun, le fait d'avoir, je dirais, des travaux sur les mobilités. Donc tous ces éléments-là, certes, coûtent, mais nous ne sommes pas les seuls à payer. Par contre, ce qui est pour moi assez compliqué à comprendre, c'est que le demi-échangeur qui avait été prévu soit pris sur les participations de ZAC, alors qu'il n'y a pas que la commune de Bussy qui va l'utiliser. Donc ça, ce sont des éléments sur lesquels on ne peut très peu intervenir puisque le dossier est bouclé. Et la totalité des travaux de ce site, je dirais, est de 12 millions d'euros, dont 8 millions de participation de la commune. Prélevés donc sur nos participations de ZAC, au détriment des équipements publics qui seront nécessaires. On ne va pas refaire le débat sur les écoles, car ce débat sur les écoles n'est toujours pas réglé. Donc depuis 6 mois de demande à Epamarne sur la construction, sur le financement des équipements publics liés aux écoles, nous sommes encore du côté d'Epamarne en phase d'étude pour savoir comment et qui et combien vont financer ces écoles-là. Donc aujourd'hui, les 8 millions pris sur nos participations pour financer le demi-échangeur est important. De l'autre côté, l'autre partie du demi-échangeur pour faire un échangeur complet, Epamarne, le directeur général, me disait qu'il avait bouclé le financement avec la SANEF pour que cette fois-ci, la deuxième partie de l'échangeur puisse être financée par les SANEF. Alors ça va pas vous faire plaisir, ça sera sur l'augmentation des autoroutes. Et donc, il faut bien financer ce qu'on prend dans une poche, on le rend souvent effectivement de l'autre. Donc, on aura bien un échangeur complet, ce qui est stratégique pour nous pour l'urbanisation économique de la ZAC de la Rucherie, ce qui est essentiel d'avoir effectivement une entrée-sortie sur le Sycomore. Et les ouvrages d'art qui vont être réalisés par Epamarne vont passer au-dessus des voies RER pour se connecter et connecter le Sycomore au Centarpan. Donc on aura bien, à partir de l'autoroute, un transfert direct, on passe par le Sycomore, ce qui évitera de passer par le centre-ville pour les habitants du fond de Bussy, et de pouvoir se connecter au Centarpan et inversement au-dessus des lignes de chemin de fer. Donc ça veut dire qu'effectivement là, on a une vraie réflexion urbaine et qui me paraît intéressante pour les futurs habitants du Sycomore. Donc cette labellisation, certes, effectivement, il faudra être prudent sur les surcoûts liés, aux notions de développement durable. Aujourd'hui, les opérateurs sont capables de présenter des dossiers, puisque l'ingénierie sur les bâtiments intelligents, l'ingénierie sur les bâtiments zéro consommation est impactée aujourd'hui. Ce n'est pas de la recherche. Aujourd'hui, c'est du standard. Donc ces surcoûts-là, aujourd'hui, on ne les aura pas dans le Sycomore. Il y a juste un point qui, moi, me pose souci, c'est le chauffage urbain qui est une... au biomasse, mais biomasse à 80%, qui est un dossier extrêmement complexe puisqu'il a été repris par Marne-et-Gondoire en 2014, et il est lié à l'urbanisation à la fois du centre-ville et du Sycomore. Or, comme on a fait à l'époque en 2014 un moratoire sur la construction, bien évidemment, ce dossier n'est toujours pas enclenché puisque la programmation des logements n'est toujours pas stabilisée. Or, les premiers logements du Sycomore ont été faits et doivent se connecter sur ce chauffage urbain. Donc on a un vrai problème de timing, on a un vrai problème économique, puisque la DSP qui avait été négociée pour 18 ans à l'époque, comme beaucoup de délégations de services publics là-dessus, ne nous permettent pas de sortir du dossier, reprise par Marne-et-Gondoire, qui ne s'est pas forcément occupé immédiatement de ce dossier-là, et avec une planification de construction de logements qui n'est pas stabilisée à ce jour. Donc, on va signer, Marne-et-Gondoire va signer bientôt un avenant permettant de reculer le démarrage de cette délégation de services publics qui, pour l'instant, n'a pas de vocation à exister puisque on n'est pas encore en phase d'urbanisation massive. Imaginez que ça fonctionne et qu'on ait qu'une dizaine de logements construits. Vous imaginez le coût de l'énergie pour ces personnes. On a le groupe scolaire numéro 10 qui va être connecté aussi au chauffage urbain. Donc, il faut qu'on trouve, avant septembre 2019, les moyens de faire fonctionner cette DSP. Qui, si aujourd'hui, nous revenions sur du chauffage urbain écologique, c'est pas la biomasse que nous choisirions, hein, c'est la méthanisation. Donc, les technologies ayant évolué, le contrat n'ayant pas démarré, on se retrouve avec quelque chose quasiment d'obsolète avant même d'avoir démarré. Donc, voilà. Avec IDEX, nous sommes en train de discuter justement sur ces mutations technologiques et d'avoir une énergie la plus simple possible, à la fois pour nos équipements publics et pour nos logements. Voilà, donc sujet compliqué. Y a-t-il des questions sur ce sujet, monsieur Panigada?
En ce qui concerne l'enlèvement des ordures ménagères,
oui.
Est-ce qu'il est prévu d'avoir un nouveau système, comme dans beaucoup de villes, c'est-à-dire un système centralisateur, ou est-ce que l'on garde ce que l'on fait actuellement?
Il est prévu de l'apport volontaire. Donc en fait, il y aura des points de collecte dans différents sites, dans différents endroits du Sycomore, pour que les gens puissent apporter leurs déchets ménagers à un endroit précis. Oui, moi, ma philosophie, je dirais là-dessus, je sais que Montévrin est en train de réfléchir avec Epamarne sur la mise au point de ce genre de choses. On sait comment ça se passe, si c'est à 200 mètres ou 50 mètres ou 60 mètres de la maison, on risque d'avoir des dépôts sauvages comme on peut avoir dans d'autres circonstances. Mais c'est vendu comme tel, c'est-à-dire que quand les futurs habitants du Sycomore vont réserver leur logement, il y aura un document qui leur sera remis sur toutes ces contraintes-là, c'est-à-dire l'apport volontaire en matière d'ordures ménagères, le vélo privilégié dans les mobilités, les transports en commun, tous ces éléments-là, et on le voit dans les premières commercialisations, c'est quelque chose qui marche, c'est-à-dire que les gens viennent parce que c'est le Sycomore et parce que c'est un éco-quartier. Donc ce sont des démarches plus philosophiques que réellement économiques, mais qui ont tendance effectivement à fonctionner. On verra l'usage. À moi, les points d'apport volontaires, on le voit par exemple pour le verre dans d'autres collectivités, c'est un peu compliqué.
Hein. Enfin, c'est un problème d'éducation, mais il y a dans certaines communes en province, autour de Chartres, ça fonctionne très bien. Juste ce qui m'inquiète, c'est Sietrem. Déjà qu'à l'heure actuelle, ils ont du mal à faire les ramassages. Oui. Est-ce que les camions sont équipés, parce que là, les premiers immeubles vont voir le jour?
Oui.
Et pour l'instant, ils ne sont pas encore équipés.
Alors, sur le Sytrem, c'est un autre problème. Merci de l'aborder. Donc, comme vous l'avez tous constaté, hein, la moitié de la ville à chaque collecte n'est pas ramassée, que ce soit pour les déchets ménagers, pour les déchets recyclés et pour les encombrants. Donc, moi, j'ai saisi en bureau communautaire le président de Marne-et-Gondoire, parce que au vu du prix de la tome aujourd'hui, au vu des demandes de prestations que l'on a effectivement auprès du Sytrem, c'est absolument lamentable. Donc on a écrit au président du Sytrem à plusieurs reprises. Celui-ci d'ailleurs s'est fendu d'un courrier absolument extraordinaire, expliquant que c'était de la faute des collectivités, puisque il fallait un lieu d'accueil des camions, puisque aujourd'hui c'est à plus de 40 km. Donc si nous ne trouvions pas un lieu de 5000 m² sur notre territoire pour stocker les camions et verser les déchets, bah forcément, on aurait du mal à ramasser des ordures ménagères du territoire. Donc, on a halluciné. Et donc, on a réécrit au président du CITREM pour lui confronter ses obligations de résultats. Et donc, aujourd'hui, plusieurs communes nous ont fait part. Je pensais au maire de Carnotin qui nous disait, bah, voilà, il est passé devant la mairie, mais il s'est pas arrêté. Il a fallu qu'on court derrière le camion poubelle pour l'arrêter. Donc, à un moment ou à un autre, il va falloir qu'on se fâche parce que c'est depuis le nouveau prestataire, qui est la Cépure. Il y avait quelques incidents, je dirais précédemment, avec de Richebourg, mais avec la Cépure, c'est chaque collecte. Donc, il y a des quartiers entiers qui ne sont pas délivrés, alors que la facturation est totale. Donc, le président de Marne-et-Gondoire va rencontrer les équipes du CITREM et demander effectivement, exiger que ça soit ramassé. Alors, la réponse aussi technique qui a été faite, c'est que maintenant, je ne sais pas si vous l'avez constaté, notamment pour la collecte du jeudi, eh bien, ça passe le samedi ou le dimanche avec des petites camionnettes pour aller récupérer les ordures qui ne sont pas ramassées. Et certains m'ont fait part qu'il y a un camion poubelle qui est passé dimanche à 6h du matin. Donc c'est pas acceptable, c'est-à-dire sur le fond et sur la forme, c'est un prestataire de service qui nous doit un service qui est payant et qui est très cher pour ce qu'il est aujourd'hui. Donc c'est ça. Donc voilà, donc on en est là aujourd'hui.
Oui, et pour le sycomore.
Et pour le sycomore, pareil.
Pour l'instant,
on n'est pas dans ce cas-là. C'est-à-dire que si on opte pour l'apport volontaire, ce seront donc des camions qui viendront récupérer des conteneurs, et donc ces camions-là seront équipés pour le faire. Ça va être le cas dans l'écoquartier de Montévrain également. Donc on a une double discussion pour mutualiser aussi les équipements nécessaires. Ok. Y a-t-il d'autres questions? Alors, nous allons pouvoir passer au vote. Alors, on vous propose d'engager le ZAC du Sycomore dans le processus de labellisation écoquartier, d'approuver la signature de la charte écoquartier, les engagements auxquels être conduit, ainsi que tous les documents en lien avec la démarche de labellisation, et de donner tout pouvoir à Monsieur le maire pour signer la charte écoquartier et les engagements auxquels être conduit, ainsi que tous les documents en lien avec la démarche de labellisation. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup.